En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Lors des entretiens organisés par l'Académie des sciences morales et politiques, fut proposée le lundi 5 novembre 2012 une relecture de l'œuvre de Raymond Aron, qui était membre de cette Académie 50 ans après la parution de son ouvrage majeur « Paix et guerre entre les nations ». Ces entretiens offrent 5 points de vue complémentaires pour mieux cerner la fécondité de sa pensée pour toute une génération d'intellectuels, dirigeants et responsables politiques du monde entier. La retransmission vous est proposée sur Canal Académie en 2 parties. Voici la première. Vous pouvez entendre la présidente Marianne Bastide-Bruguière, puis les points de vue de l'historien académicien Georges-Henri Soutou, du philosophe Pierre Asner et de l'économiste par l'académicien Jean-Claude Casanova.
Permettez-moi d'abord, en ouvrant cet entretien académique intitulé « Relecture de Raymond Aron, paix et guerre entre les nations 50 ans après, 1962-2012 », permettez-moi de remercier mes confrères et en particulier M. Georges-Henri Soutou qui a pris en charge la coordination d'avoir eu l'initiative de cette rencontre qui rend hommage à l'œuvre d'une des personnalités les plus éminentes du monde intellectuel français et de notre Académie au siècle dernier. Raymond Aron avait été élu à l'Académie des sciences morales et politiques en 1963 et il y siégea 20 ans jusqu'à sa mort en 1983. Je veux remercier, bien entendu, les collègues et le public qui sont venus ce matin. Dans l'introduction de « Paix et guerre entre les nations » parue en 1962, un an avant son élection, Raymond Aron observe que dans le passé, les temps de troubles ont en général incité à la méditation et fait surgir des œuvres majeures, la République de Platon, la politique d'Aristote, le Léviathan, les écrits de Locke, de Spinoza, de Montesquieu, de Rousseau, mais les lendemains de la Seconde Guerre mondiale n'ont point provoqué de réflexion de la même envergure qui pouvait inspirer les lignes d'une organisation nouvelle des sociétés humaines. À vrai dire, son livre, dont les idées ont tenu une place importante dans la formation intellectuelle de toute une génération de dirigeants et de responsables de la vie publique à travers le monde entier, son livre est peut-être de ceux qui sont devenus précisément la source la plus féconde d'une nouvelle approche des problèmes, non pas simplement des États, mais de la société internationale qui, depuis la seconde moitié du XXe siècle, forme désormais le cadre obligé de toute action politique, même interne. C'est ce que mettront sûrement en lumière par un examen critique sous des angles différents, les 5 exposés que nous allons entendre et discuter. Et je cède tout de suite la parole à M. Georges-Henri Soutou, qui envisage le sujet du point de vue de l'historien.
Madame le Président, merci beaucoup. Mes chers confrères, mes chers collègues, mesdames, messieurs, dans son livre, Raymond Aron lui-même définit en une seule phrase, l'objectif de l'ouvrage. Je cite « La théorie que ce livre développe a pour titre « Paix et guerre entre les nations » parce qu'elle tend à la mise en forme rationnelle de la conduite diplomatico-stratégique ». Cette phrase extrêmement ramassée, il l'a développée et peut-être encore plus clairement formulée du point de vue qui est le nôtre aujourd'hui, en particulier le mien, lors d'un séminaire au Centre de politique étrangère, l'ancêtre lointain de l'IFRI, n'est-ce pas, le 27 juin 1962, en discutant avec différentes personnalités et, toujours pour mon point de vue, essentiellement Jean Laloi, diplomate spécialiste de l'Union soviétique fort connu à l'époque, et le général Beaufre. On possède le compte-rendu sténographique de cette rencontre, c'est très intéressant. Et là, face à des spécialistes, Raymond Aron précise, je cite, « Partir d'une considération purement rationnelle de la conduite que j'appelle stratégico-diplomatique, pour passer par la sociologie et l'histoire et arriver à une philosophie de l'action diplomatique. » Donc il évoque lui-même la place de l'histoire dans son processus de raisonnement, et c'est cet aspect que je voudrais approfondir pour ma part. Tout d'abord, quelle est l'historiographie de Raymond Aron dans « Paix et guerre » ? Incontestablement, il suffit d'ouvrir l'ouvrage, il y a un large contenu historique, en dehors même de la troisième partie intitulée « Histoire, le système planétaire à l'âge thermonucléaire », qui est en fait ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'histoire actuelle ou immédiate. L'histoire, au moins comme source de réflexion et d'exemple ou d'illustration du raisonnement, est omniprésente et étroitement intégrée à l'ensemble de l'ouvrage. Seulement, si on regarde de plus près, en dehors d'une masse de connaissances, bien entendu, d'un homme extraordinairement cultivé et à la mémoire phénoménale, les références à des historiens donnés, précis, sont finalement limitées. Certaines sont, je dirais, épisodiques, voire anecdotiques, comme Carcopino ou Hérodote. D'autres sont déjà plus systématiques dans l'axe de la pensée de Raymond Aron, comme Thucydide. Mais finalement, les citations les plus nombreuses et les plus fondamentales pour sa réflexion, celles qui vraiment ont compté, relèvent de trois auteurs. Hans Delbrück, historien allemand du début du XXe siècle, dans lequel Raymond Aron puise toute une problématique de la guerre réelle, la guerre historique, par rapport à la guerre théorique, la stratégie théorique. Deuxième auteur qui revient souvent, c'est Treitschke, historien prussien, vraiment des débuts de l'Empire wilhelmien, qui a théorisé la politique extérieure classique des États-nations, dont on résume généralement la pensée par le primat de la politique extérieure, pour maintenant évidemment critiquer cette vue. Mais enfin, Raymond Aron s'appuie beaucoup, cite beaucoup ses travaux, sans bien entendu y adhérer forcément, mais comme type de réflexion. Troisième exemple, là aussi comme type de réflexion, et sans que Raymond Aron y adhère forcément constamment, Arnold Toynbee, avec accessoirement Oswald Spengler. Arnold Toynbee, historien des civilisations, qui a écrit un énorme ouvrage sur la montée et le déclin des différentes civilisations. Cette question de la montée et déclin des civilisations fascine visiblement Raymond Aron, et les théories de Toynbee le fascinent, veux-je dire, pas vraiment comme une vérité absolue, une vérité révélée, mais comme un instrument d'analyse de l'évolution du monde, comme un jeu d'échelle, comme un contrepoint ou un antidote peut-être à une vision purement interétatique dont Raymond Aron comprend bien entendu les limites. Vision purement interétatique du système international. Ceci dit, la notion de civilisation n'est pas du tout pour Raymond Aron un paradigme permettant de penser l'avenir de façon précise. Je le cite toujours dans Paix et guerre. La phase prochaine de l'histoire humaine suscitera peut-être des civilisations autres que celles de l'Occident, de la Chine historique ou du christianisme oriental, mais que peut-être aussi les civilisations appartiennent au passé, l'histoire de demain étant universelle. Donc il utilise toutes ces réflexions sans en faire un absolu. Il tire de tout ça des matériaux pour sa réflexion, mais pas une doctrine. Deuxième point, quelle place accorde-t-il à l'histoire dans Paix et guerre ? On voit déjà par les références que j'ai données qu'on est très loin de l'historiographie universitaire. L'histoire, oui, les historiens, oui, mais non pas les historiens historicisants. Ce qui intéresse Raymond Aron, ce sont les historiens qui donnent à penser. N'est-ce pas qu'il va trouver, c'est très net quand on regarde les titres qu'il utilise, pas forcément dans le cadre universitaire. Il est d'ailleurs dans son introduction, plutôt sévère pour ma profession, les historiens, dit-il, ont décrit ou raconté les relations internationales plutôt qu'ils ne les ont analysées ou expliquées. Or, aucune science ne se borne à décrire ou raconter. Nous verrons par la suite que cette phrase a été comme un éperon utile, bienfaisant, n'est-ce pas, pour exciter mes collègues et prédécesseurs surtout à un petit effort de réflexion. Dans ses mémoires, parus bien plus tard, il s'excuse presque. La troisième partie de Paix et guerre était intitulée « Histoire » parce qu'elle analysait une conjoncture singulière, l'état du système interétatique au début des années 60. J'hésitais longuement. Cette partie d'actualité, celle que Fernand Braudel préféra aux trois autres, je ne suis pas absolument certain que cette préférence de Fernand Braudel n'ait pas été particulièrement irritante pour Raymond Aron, n'est-ce pas ? Cette partie d'actualité réduisit la portée du livre tout entier. Donc on voit les distances qu'il prend lui-même avec l'histoire. Malgré tout, je plaide pour l'idée sur laquelle Paix et Guerre réintègre l'histoire et comment. En effet, Raymond Aron a compris quelque chose de fondamental. L'histoire n'est pas tant la science du temps, de la chronologie, que la science de la différence ou des différences. Je cite, toujours Paix et Guerre. « Certains des phénomènes qui ont marqué le devenir d'autres civilisations sont visibles au cours des derniers siècles de l'histoire occidentale. Mais les singularités de ces phases typiques sont plus intéressantes que les traits par lesquels celles-ci évoquent déjà vu. En l'occasion, les comparaisons historiques débouchent sur la compréhension de ce que jamais on ne verra deux fois. » Ce qui est impeccable du point de vue de la science historique. Et donc, et c'est le sens des pages suivantes de Paix et Guerre, pour étudier l'état du monde et encore plus son avenir, l'histoire ne peut être qu'un élément dans une démarche pluridisciplinaire. Mais c'est un élément indispensable, je dirais presque afin de tester des hypothèses et des scénarios. À côté de, je cite, la rationalisation juridique, c'est-à-dire le droit, à côté de la rationalisation théorique, comme dit Raymond Aron, c'est-à-dire la sociologie, l'objet de l'histoire, c'est introduire la différenciation de l'objet relation internationale. Je cite, la rationalisation sur sa triple forme, différenciation, élaboration conceptuelle, réflexion sur l'essence et l'efficacité de la conduite diplomatico-stratégique, a besoin de l'histoire, je reprends la citation, parce que les leçons du passé ne peuvent être retenues que si elles sont insérées dans une théorie qui embrasse le même et l'autre, dégage les constances pour élaborer et non pour éliminer la part de l'inédit. Dans une étude comparative récente dans la revue Défense nationale, un collègue politiste, Jean-Jacques Roche, a très bien souligné que Raymond Aron a développé une sociologie historique de l'international proche de la pensée d'un historien des relations internationales comme Jean-Baptiste Durosel, sur lequel je vais revenir, et très éloigné, par exemple, de l'approche beaucoup plus théorique d'un Kenneth Waltz. En d'autres termes, il est tout à fait légitime de poser la question de l'histoire comme élément, disons, de réflexion pour Paix et Guerre. Je reviens une seconde au débat qui eut lieu au Centre de politique étrangère fin juin 1962. Je rappelle, n'est-ce pas, que Raymond Aron avait défini son livre comme une considération purement rationnelle de la conduite que j'appelle stratégico-diplomatique pour passer par la sociologie et l'histoire et arriver à une philosophie de l'action diplomatique. Mais toujours dans cet entretien du Centre de politique étrangère, Raymond Aron admet que c'est une démarche à double sens. Je cite, « Mon système intellectuel abstrait est une reconstruction rationalisante à partir d'une réalité historique et humaine. » Il explique, « La pluralité des États, la pluralité des foyers de décision, le droit de recourir à la force par plusieurs joueurs, je ne les ai pas inventés. C'est l'histoire et toute l'histoire de l'Occident qui me les a donnés. » Ça, c'était en réponse à des questions du genre, enfin, vous dites que vous faites de la théorie, mais vous êtes quand même bien obligé, quand on vous lit, de partir d'un certain nombre de données historiques. Donc, finalement, je répète que la place de l'histoire est plus importante qu'il n'y paraît au premier abord dans son livre. Mais en même temps, il faut bien comprendre la nature de la place de l'histoire. La troisième partie, c'est-à-dire le monde depuis 1945, ne satisfait pas Raymond Aron. Il d'ailleurs laissera entendre plus tard dans ses mémoires, il le dit carrément le 27 juin 1962, il n'y pensait pas dans son plan initial. Je n'ai ajouté la partie sur l'actualité que sur l'insistance de quelques-uns de mes amis, très tard, avant de finir mon livre, et au fond parce que j'ai pensé qu'il était difficile de faire tenir dans la partie théorique à la fois les concepts fondamentaux de valeur très générale à travers l'histoire et la transformation de ces relations essentielles dans le monde actuel. Il est donc assez ambivalent sur la place que lui-même accorde à l'histoire, Il me semble que pour lui, c'est l'histoire, c'est la réalité qui permet d'élaborer une théorie à partir d'un donné, n'est-ce pas ? Et en même temps, le test de réalité de la théorie élaborée. Quelle a été la réception par les historiens des relations internationales à l'époque ? Je rappelle qu'il avait fait peu de temps avant un semestre de séminaire commun avec Jean-Baptiste Durosel à Sciences Po. Je rappelle que tous les deux étaient professeurs à la Sorbonne et qu'à l'époque, début des années 60, il n'y a qu'une seule Sorbonne. Mais seule Sciences Po pouvait réunir dans un séminaire commun deux professeurs de disciplines différentes, même s'ils faisaient partie du même établissement de la Sorbonne. Je rappelle cela pour montrer que le rôle de Sciences Po n'a pas été inutile dans l'histoire du monde universitaire français. Bon. Jean-Baptiste Durosel fit immédiatement une recension élogieuse de Paix et guerre entre les nations et un livre récent, dirigé et largement rédigé d'ailleurs par mon collègue et ami Robert Franck, intitulé pour l'histoire des relations internationales, montre la grande influence sur l'école française des relations internationales exercée par Raymond Aron et Paix et guerre. Le livre, publié par Renouvin et Durosel en 1964, c'est-à-dire 2 ans plus tard, intitulé « Introduction à l'histoire des relations internationales », marque même l'influence de Paix et guerre par un recentrage net sur l'interétatique, alors que les ouvrages précédents de Renouvin, par exemple, accordait autant d'importance aux forces profondes, comme il disait, qu'elles fussent internationales ou transnationales. En d'autres termes, la vision interétatique du système international est plutôt renforcée pour les deux chefs de l'école française à l'époque, Renouvin et Durosel, à la suite du livre de Paix et guerre entre les nations, c'est tout à fait net. Alors, on peut s'interroger au passage sur le rapport qui existe, ou plutôt le rapport de Raymond Aron à l'histoire se faisant, comme il dit. Puisqu'au fond, c'est essentiellement sur toujours les périodes très actuelles qu'il a réfléchi du point de vue historique. Ce rapport est plus complexe que ce qu'il a dit lui-même. Il prétendait volontiers tout tirer de sa réflexion à partir de dépêches d'agence que tout le monde, disait-il, pouvait lire. Ceci dit, ses articles, par exemple dans le Figaro, sur les relations internationales, quand on les confronte aux archives même de Raymond Aron et à celles, par exemple, du ministère des Affaires étrangères, montre que Raymond Aron était très informé, qu'il était très au courant des débats internes au sein du milieu des affaires étrangères sur la politique extérieure. En fait, il écrit ses articles, certes avec sa réflexion, mais également avec les témoignages, les indications qu'il obtient de très bonnes sources. En même temps, il utilise ces informations pour son élaboration théorique. C'est pas vraiment une démarche d'historien. Il utilise ce qui lui est utile. Je prends par exemple ces articles consacrés à la crise de Cuba, la crise des missiles de Cuba en 1962. Ce qui importe pour lui, c'est au-delà de l'histoire même de la crise, mais qui n'approfondit pas, disons, à fond, on n'a d'ailleurs pas les moyens quand il écrit à chaud, ce qui importe pour lui, c'est que finalement le principal avantage de la riposte graduée, théorie américaine, stratégie officielle américaine en matière nucléaire à l'époque, qu'il croit avoir été démontré lors de la crise de Cuba, était de rétablir une relation clausewitzienne entre la guerre et la politique, relation que la doctrine des représailles massives avait rompue. Il veut donc voir dans le déroulement et l'achèvement heureux de la crise de Cuba l'effet de l'abandon de la doctrine des représailles nucléaires massives et le passage à la doctrine de riposte graduée, beaucoup plus prudente, beaucoup plus souple. Et ça le satisfait parce qu'il voit la relation, le rétablissement de la relation entre la guerre comme poursuite de la politique et non pas comme la guerre monstrueuse, totalement en dehors de tout cadre politique que supposent les représailles nucléaires totales. Donc il est satisfait de voir ressusciter Clausewitz après la crise de Cuba. En fait, les historiens admettent maintenant que la doctrine nucléaire de riposte graduée américaine proclamée par Kennedy et McNamara, était largement déclaratoire, qu'elle n'avait rien changé au plan de guerre américain effectif qu'on commence à avoir maintenant, et qu'en particulier l'affaire de Cuba, là aussi on a maintenant accès aux archives, a plutôt montré que les Américains ont mis très tôt de côté dans la crise les fameux scénarios de riposte graduée, et que Khrushchev les a pris au sérieux quand il a compris qu'ils étaient vraiment prêts à recourir à un bombardement nucléaire massif sur l'Union soviétique. Donc la crise de Cuba, quand l'historien l'analyse aujourd'hui, elle montre plutôt le côté très relatif de la riposte graduée et la réalité du fait qu'il y a une dissuasion nucléaire que l'on ne peut pas diviser, que l'on ne peut pas partager, que l'on ne peut pas découper en petits morceaux. Je dis au passage que nous avons de plus en plus accès au plan, à ce qui se serait passé, et on admet maintenant qu'une riposte graduée par étapes successives eût été ingérable, de même que les scénarios de frappes successives, anti-force d'abord, antidémographique ensuite, tout ça eût été ingérable parce qu'on n'avait pas les moyens de commander de pareilles opérations, parce que la psychologie, non seulement des civils, mais des militaires au cours d'opérations de ce genre, aurait très vite commandé d'autres évolutions, parce que les radiations d'une part et les impulsions électromagnétiques de l'autre auraient rendu inopérants tous les systèmes de radar, de radio, de commandement, dès les premières heures d'un conflit de ce genre. En fait, ces théories de riposte graduée, Raymond Aron les avait apprises de ses collègues américains lors de son séjour à Harvard en 1960. Il avait été fasciné, mais c'était davantage des exercices intellectuels que la réalité des plans de guerre. Ce n'est pas la riposte graduée, contrairement à ce qu'il pensait à l'époque, qui a reconstruit une certaine rationalité dans la relation Est-Ouest, après le sommet de crise Est-Ouest représenté par l'affaire de Cuba. C'est la dissuasion nucléaire réciproque, c'est-à-dire la conscience au moment de Cuba que vraiment on risquait la catastrophe, et à partir de là, les négociations stratégiques entre les deux camps. C'est un raisonnement qui n'est pas du tout celui de Raymond Aron dans ses écrits à l'époque. Mais lui-même a compris qu'il devait approfondir sa réflexion sur l'histoire. Il a consacré son cours au Collège de France en 1973-1974, qui a été publié sous le titre « Leçons sur l'histoire » à ces questions. Et l'un des cours était consacré à « Histoire et théorie des relations internationales ». Et il souligne lui-même qu'il avait, après paix et guerre, approfondi sa réflexion et même écrit un véritable livre d'histoire, que je recommande encore aujourd'hui à mes étudiants, « La République impériale ». Paru en 1973, qui est une histoire de la politique extérieure des États-Unis depuis 1945 et que l'on peut encore lire aujourd'hui. D'autre part, son cours du Collège de France en 1973-1974 distingue très soigneusement les relations interétatiques, donc entre les États, les relations internationales entre groupes, individus de différents États et les relations transnationales concernant les entités au-delà des frontières comme les religions, les idéologies, etc. Ce qui est encore le schéma admis, c'est une façon d'accepter la critique qui lui avait été faite par certains en 62 que paix et guerre reposaient trop exclusivement sur une vision inter-étatique des relations internationales. En fait, il reconnaît dans ses mémoires avoir rattrapé en quelque sorte, par ses travaux ultérieurs, ce qu'il avait insuffisamment développé dans son livre de 1962. Comme on aurait dit dans un régime communiste, il a procédé à son autocritique. Et il a également, d'ailleurs, admis qu'il avait utilisé de façon trop étroite la pensée de Clausewitz. Je vous renvoie là, mais c'est hors du sujet d'aujourd'hui, ce sera pour un autre anniversaire, à penser la guerre, n'est-ce pas, son ouvrage sur Clausewitz. Bon, dernier point sera le suivant, quel jugement porter sur l'historiographie d'Aron aujourd'hui ? Son récit historique, pour la période de 45-62, disons, est incontestablement daté. Il voit surtout dans la guerre froide l'équilibre par la dissuasion réciproque entre les frères ennemis, américains et soviétiques. Je fais remarquer que cette notion de frères ennemis, soulignant à la fois l'opposition en même temps la complicité entre les deux superpuissances, n'est pas antinomique de la pensée du général de Gaulle à la même époque. N'est-ce pas ? C'est intéressant à relever. Il décrit le système de l'époque de façon réaliste et tout à fait acceptable, mais il le voit comme pas fondamentalement différent de ce qu'était le système international avant 1945, à deux différences près, il est désormais planétaire, toute la planète, et d'autre part, il comporte en plus la bombe. Il déclare nettement que nous en sommes à la paix par l'équilibre entre les États, que le système bipolaire n'est qu'un cas particulier du système multipolaire traditionnel, et que la guerre froide, finalement, n'introduit pas de changement de nature dans le système international. Il l'explique lors de la réunion du Centre de politique étrangère dont je vous ai parlé. Pour lui, la paix par la loi ou la paix par l'empire, qu'il évoque dans son livre, sont théoriquement envisageables, ne sont pas réalisées, le système international n'a pas changé. Il a une très intéressante discussion avec Jean Laloi, spécialiste de l'Union soviétique, qui n'est pas d'accord avec lui justement sur ce point. Bon, je résume une discussion qui est un peu longue, mais Jean Laloi dit, le juin 62, exactement ce qu'il disait dans ses rapports au Quai d'Orsay depuis 1960-1961, pour faire la comparaison. Le problème du bloc soviétique, c'est pas simplement le problème d'un groupe de puissance allié à l'Union soviétique en opposition à un autre groupe de puissance allié aux États-Unis, ce sont des problèmes internes au bloc soviétique. D'une part, là, Aron est d'accord, c'est le problème de la Chine qu'il évoque longuement et de la rupture sino-soviétique. Mais, ajoute Jean Laloi, il y a d'autres problèmes inhérents au système soviétique, en particulier l'échec de l'agriculture, le manque d'attractivité pour ce fait à l'égard des pays sous-développés à long terme, les faiblesses fondamentales du système soviétique. Ça, c'est quelque chose que Raymond Aron reprendra par la suite, mais qui n'apparaît pas à ce moment-là. Pour Laloi, la rupture dans le système international interviendrait par l'échec interne du système communiste, alors que Raymond Aron ne le voit pas de cette façon-là à ce moment-là. Il est certain donc que le récit que fait Raymond Aron de la guerre froide en 1962 aujourd'hui date, et les recherches actuelles vont tout à fait dans le sens des réflexions à long terme de Jean Laloi sur l'évolution, les crises, les prolégomènes de la crise du système soviétique, etc. Ceci dit, j'ajoute immédiatement que Raymond Aron n'est jamais tombé dans le piège du révisionnisme, consistant à voir les responsabilités essentielles, voire exclusives de la guerre froide aux États-Unis. Thèse apparue dès les années 50 et qui revient en force aujourd'hui, d'ailleurs, je le signale, dans la toute récente historiographie. Deuxième point, Raymond Aron, quand il parle de la guerre froide, parle de choses sérieuses et pas de petites choses inconsistantes comme ce qui est très à la mode aujourd'hui, la culture de guerre froide, n'est-ce pas, ou les émotions de guerre froide. Troisièmement, dans les recherches les plus récentes, tout un courant renoue, dans une certaine mesure, avec ce que l'on appellerait dans un régime communiste la ligne générale de guerre et perte des nations, c'est-à-dire la nécessité pour analyser un système comme le système soviétique et sa politique extérieure, étant donné la difficulté d'accéder aux archives et ensuite le manque de signification des archives même d'un système totalitaire, la nécessité de procéder à un aller-retour constant entre l'histoire et la science politique pour poser des questions, y répondre, reposer des questions, etc. Le livre le plus récent de synthèse sur l'évolution de la méthodologie de la guerre froide, Dodd Arne Westad, Reviewing the Cold War Approaches Interpretation Theory, est très exactement dans ce sens qui, d'une certaine façon, rétablit, disons, la légitimité de la réflexion de Raymond Aron en 1962. Dernier point, Raymond Aron a évolué en sinusoïde. Dans les années 40-50, comme on peut le montrer avec ses écrits de l'époque, il accorde une grande place à l'idéologie et aux problèmes transnationaux posés par le communisme dans la guerre froide. Avec les années 60, en particulier paix et guerre, il revient à une vision plus interétatique, plus classique du système international qu'il essaie de faire rentrer dans la guerre froide, ou plutôt il essaie de faire rentrer la guerre froide dans les catégories plus classiques du système international. Bon, par la suite, il s'est retourné contre cette réflexion et s'est retourné en particulier contre Kissinger. Je vous signale un article où il accuse Kissinger, devenu ministre des Affaires étrangères de Nixon, d'être passé du réalisme, ce que Aron pouvait accepter, au cynisme, ce que Aron ne pouvait pas accepter. Et ce fut une étape, rien qu'une étape, car dans les années 70, il revint de nouveau à une vision plus idéologique de la guerre froide, comme le montre par exemple son article dans le numéro 2 de la revue Commentaire, Monsieur X, X c'est Kennan bien entendu, règle ses comptes avec son passé, l'isolationnisme de George Kennan. C'est une critique féroce du repli de George Kennan, qui avait été pourtant l'un des fondateurs de la théorie du containment, l'accusant de nier maintenant l'importance du facteur idéologique et donc la profondeur du schisme de la guerre froide. En même temps, l'influence à long terme de Raymond Aron sur l'école française des relations internationales est incontestable, malgré les limites que l'on peut voir aujourd'hui dans certaines parties de sa réflexion. Mes prédécesseurs ont bien compris, et mes actuels collègues ont bien compris qu'il y avait beaucoup d'histoires dans paix et guerre. C'était bienvenu pour ma malheureuse profession, peu respectée au sein de l'université, par rapport à d'autres courants ou auteurs internationalistes qui s'occupaient de relations internationales en évacuant l'histoire. C'était d'autre part, ceci est plus circonstanciel mais important, une aide bienvenue contre l'école des annales et contre Fernand Braudel qui condamnait l'histoire événementielle, comme il disait, n'est-ce pas, comme sans aucune signification, et ne défendait qu'une approche structurelle, structuraliste de l'histoire. Troisième point, Raymond Aron a maintenu au niveau théorique la composante interétatique du système international, toujours essentielle pour l'école française de relations internationales, qui n'a jamais accepté, sauf exception, l'évolution, disons, de l'école internationale américaine vers l'oubli de l'interétatique. Et il a fait comprendre, Raymond Aron, à l'école française, quelque chose à quoi ni Renouvin ni Durosel, au début, n'étaient sensibles, mais qu'ils ont adopté et développé, l'idée qu'il ne s'agit pas simplement de faire l'histoire diplomatique des relations internationales, mais d'étudier le système international, ce qui va au-delà du simple récit de relations internationales, parce que ça permet d'introduire les réflexions sur l'équilibre, les équilibres, le droit international, les valeurs, les représentations. Ce n'est pas par hasard si les historiens, en particulier français, les autres, c'est moins net, je veux le dire, se réfèrent toujours à Raymond Aron, malgré certaines réserves ici ou là, et si les politologues en France ont souvent tendance à le rejeter ou à l'écarter. On a eu certaines séances de l'Association des internationalistes que j'ai l'honneur de présider qui étaient à ce sujet tout à fait amusantes. Je vous remercie infiniment.
Je donne donc la parole à M. Pierre Hassner, directeur de recherche émérite.
J'ai accepté immédiatement de participer à cette réunion parce que j'accepte toujours quand il s'agit de Raymond Aron, mais je voudrais commencer en faisant trois petites remarques. Premièrement, je suis le seul à cette table qui ne soit pas académicien. Deuxièmement, je suis censé représenter le point de vue du philosophe, mais je suis agrégé de philo, j'ai fait quelques travaux d'histoire de la philosophie politique, mais je ne me suis jamais prétendu être un philosophe. Je laisse ça à Platon, à Kant et à Bernard-Henri Lévy. Mais simplement, je voulais marquer les limites de ce que je pouvais dire. Et troisièmement, ce qui est plus important pour notre sujet, les limites de paix et guerre pour comprendre la philosophie d'Aron. Je pense que Paix et guerre est le plus grand traité de relations internationales qui ait jamais été écrit et que ses analyses, même latérales, ils centrent sur les États, mais par exemple le chapitre sur la dialectique de la subversion, le colonisateur, l'insurgé qui doit, il lui suffit de ne pas perdre alors que celui qui veut rétablir l'ordre doit gagner, etc., reste extrêmement valable même dans la conjoncture actuelle. Mais je trouve que la philosophie de Raymond Aron ne s'explique pas par paix et guerre, c'est plutôt paix et guerre qu'il faudrait expliquer par ses autres œuvres, et c'est ce que j'essaierai en partie de faire. Je voudrais, pour donner une idée de la philosophie dernière de Raymond Aron, citer la dernière page de l'introduction à la philosophie de l'histoire de sa thèse, la dernière phrase qui est « L'existence humaine est dialectique, c'est-à-dire dramatique ». Puisqu'elle agit dans un monde incohérent, ne s'engage en dépit de la durée, sans autre secours, cherche une vérité qui fuit, sans autre secours qu'une science fragmentaire et qu'une réflexion formelle. Et je trouve que là, on voit que la pensée d'Aron est essentiellement une pensée par antinomie. Il me semble qu'en philo, il y a trois types de philosophes. Aristote, pour lequel les différences sont hiérarchisées, et dans l'âme humaine et dans le monde. Kant, qui insiste, qui sépare en antinomie le théorique, le pratique, etc., et ensuite fait beaucoup d'efforts pour établir des ponts entre eux. Et Hegel, qui fait une grande dialectique globale, où le particulier est au cœur de l'universel, l'universel au cœur du particulier, etc. Or, très clairement, Aron est kantien. J'ai un certain désaccord avec mon ami Pierre Manon, qui serait mieux à sa place que moi ici, étant vraiment un philosophe. Lui, il pense que les allusions à Kant dans l'œuvre d'Aron sont un peu une espèce de coquetterie nostalgique, parce que c'était sur Aron qu'il avait travaillé en tant qu'étudiant, qu'il avait fait son mémoire, etc. Moi, je ne pense pas. Et je voudrais signaler au passage un article récent d'un jeune chercheur, Gwendal Chaton, qui parle d'un machiavélisme post-kantien. Post, c'est pas post, mais c'est une oscillation permanente entre la logique de l'action de Machiavel et les antinomies kantiennes. Maintenant, la fin de Peeger, qui est une note sur stratégie rationnelle et politique raisonnable. Et Aron dit, à propos des idées que peut-être on va vers un monde unique, que peut-être on va vers le dépassement de la guerre, il dit « J'ai peine à répondre affirmativement à toutes ces questions. Je ne nie pas deux nouveautés, la capacité de manipulation des forces naturelles pour la production et pour la destruction, le germe d'une conscience humaine à la fois morale, tous les hommes sont des hommes, et pragmatiques, il est conforme à l'intérêt de tous les hommes de limiter les conflits entre les fractions de l'humanité. Ces deux faits nouveaux sont-ils la preuve d'une phase nouvelle de l'aventure humaine ? Nous ne pouvons pas le savoir, nous devons le vouloir, nous sommes en droit de l'espérer. » Et ça, c'est exactement la trilogie kantienne. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que puis-je espérer? Il y a des échos de Kant tout le temps. Et la conclusion de la conclusion dit « L'humanité, en cet âge inconnu, sera-t-elle homogène ou hétérogène? Les sociétés seront-elles comparables à une termitière ou à une cité libre? L'âge des guerres s'achèvera-t-il en une orgie de violence ou en un apaisement progressif? Nous savons que nous ne savons pas la réponse à ces interrogations. » Laissons à d'autres plus doués pour l'illusion le privilège de se mettre par la pensée au terme de l'aventure et tâchons de ne manquer ni à l'une ni à l'autre des obligations imposées à chacun de nous, ne pas s'évader d'une histoire belliqueuse, ne pas trahir l'idéal. Penser et agir avec le ferme propos que l'absence de guerre se prolonge jusqu'au jour où la paix deviendra possible, à supposer qu'elle ne devienne jamais. Et ça a agacé beaucoup de gens, notamment son interlocuteur américain Morgenthau, le père de la théorie réaliste, de disant que les livres d'Aron se finissent presque toujours par un point d'interrogation et par un « nous ne savons pas ». Et c'est tout à fait vrai. Mais je trouve que dans « Paix et guerre », on a, à mon goût, et on en a souvent parlé à l'époque, à mon goût, c'est un peu trop binaire et trop statique. Et il y a une partie qui est en quête du sens du devenir, mais c'est toujours de dire, on ne sait pas. Mais l'essentiel, c'est de séparer, de définir les relations internationales par la logique de l'action diplomatico-stratégique entre États ou unités politiques qui se réservent le droit de recourir à la force. Et donc, les relations internationales, c'est avant tout la décision entre la guerre et la paix. Et je me rappelle une discussion que nous avions eue plusieurs fois où je lui disais, bon, c'est entendu, mais à un moment où, à cause de la bombe atomique, la guerre entre les grands est infiniment peu probable, ou à l'intérieur de l'Occident, une guerre entre la France et l'Angleterre ou la France et l'Allemagne est absolument impensable, et où, au contraire, les guerres civiles se multiplient et les zones de non-droit à l'intérieur des États, est-ce que ça a beaucoup un sens de prendre l'état extrême de l'état de droit avec ses institutions ou de la guerre où chacun, parce qu'il avait quand même un grand mépris pour l'ONU, pour le droit international, etc. Donc, écartons ça et disons, chaque État essentiellement se définit par le droit de faire la guerre. Et il me dit, bon, c'est les cas extrêmes. Je dis, mais est-ce que c'est bon, vous qui êtes pour la modération et pour l'équilibre, de faire comme Carl Schmitt et de définir à partir des cas extrêmes? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, comme Aristote, partir du cas normal? Et il me disait, en citant Max Weber, ce n'est pas parce que la réalité est ambiguë que nos concepts doivent être confus. Je ne suis plus très sûr si c'est pas dans l'autre sens, si la réalité ambiguë, la réalité confuse et nos concepts ambiguës, mais voilà ce qu'il disait. Et je trouve qu'il le trouvait lui-même rétrospectivement, quand on voit surtout l'évolution, que c'était trop rationnel et trop simplificateur. Et c'est ça, Raymond Aron, à la fois il a mis sur son épée académicien, une phrase d'Hérodote qui est radicalement fausse, qui est de dire aucun homme n'est assez dénué de raison pour préférer la guerre à la paix. Malheureusement, il y en a beaucoup. Mais c'était un homme qui aimait la paix et en même temps, et qui croyait, qui mettait toujours, on peut avoir à l'horizon, mais c'est une idée de la raison, une réconciliation humaine où l'homme ayant dominé la nature finirait par se dominer lui-même, où les gens se comprendraient, etc. Mais nous n'en savons rien, il ne faut surtout pas, ça c'est sa grande vertu, le confondre avec un régime donné, comme le faisait Merleau-Ponty, disant si l'Union soviétique n'existe pas, ça veut dire que l'histoire n'a aucun sens. C'est tout à fait quelque chose qui intervient à chaque fois en un paragraphe, mais il a passé sa vie à étudier, non plus Kant, mais Clausewitz et la guerre. Et d'autre part, il était, j'y viens dans une seconde, extrêmement conscient des phénomènes économiques, transnationaux, etc. Et dans la préface à la 8e édition, qui est posthume, il dit « Peut-être dans la troisième partie de Paix et guerre, ai-je eu tendance à surestimer la logique ou l'implicite rationalité des acteurs et à sous-estimer l'envers de l'action extérieure et aussi les changements économiques, sociaux, psychologiques, indépendamment des décideurs. En regardant le monde en 1983, 20 ans plus tard, je serais amené à saisir la dynamique de l'évolution sans sous-estimer cette fois l'influence de l'envers de l'action extérieure et des modifications imputables aux phénomènes transnationaux. » Or, ce qui me paraît, nous sommes réunis pour parler de paix et guerre, mais je voudrais quand même mentionner, parce que moi c'est comme ça que je l'ai découvert, et je trouve que c'est en un sens ce qui est le plus vivant, c'est un livre comme Les guerres en chaîne, dont l'historien de la philosophie, Henri Gouhier, avait montré la continuité avec l'introduction à la philosophie d'histoire. C'est-à-dire, il n'y a pas de sens d'histoire globale, mais il y a des logiques, des dynamiques qu'on peut déceler. C'était inspiré par la philosophie de Cournot, où le hasard est la rencontre de deux séries indépendantes, de deux séries causales indépendantes. Et cette rencontre, on ne peut pas la prévoir, elle est l'événement. Et paix et guerre est absolument sur ce modèle. Et je trouve, ça je ne sais pas ce qu'en pensent les historiens, et avant tout Georges-Henri Soutou, moi je trouve que comme vu du XXe siècle, c'est absolument remarquable, où il dit la guerre de 14 commence comme un raté du système diplomatique, c'est pas l'impérialisme, etc. Mais il y a la surprise technique, la durée engendre la propagande, engendre le rôle de l'État, les révolutions, celle-ci dans des régimes qui rendent plus probable une deuxième guerre, sans le rendre certain. Il y a des nœuds, il y a à un moment donné des acteurs dans une orientation, etc. Et cette dialectique, cette dynamique du hasard et de la nécessité, des nécessités partielles et de leur rencontre, elle me semble toujours extrêmement éclairante. Et elle est un petit peu absente de paix et guerre, où il dit qu'il y a une société transnationale qui a ceci, mais il sépare les choses. Un peu comme aussi, je trouve, La République impériale est un très bon livre, mais quand même, il y a une partie diplomatique et une partie économique, alors que dans ses articles ou dans Les guerres en chaîne, il montre admirablement la dialectique, l'interaction de l'intérieur et de l'extérieur, des révolutions et des guerres, etc. Et il y a un autre article presque contemporain de Paix et guerre que je trouve extrêmement important, l'article que je signalais de ce jeune chercheur est autour de ça, c'est l'article intitulé « L'aube de l'histoire universelle » qui se trouve dans Dimension de la conscience historique, et où il distingue à travers l'histoire ce qu'il appelle le procès et le drame. Et on voit bien qu'il analyse très bien Thucydide et le récit historique, ça c'est le drame, et le procès qui est le progrès économique, le changement des sociétés, qui fait qu'au moins on sait que les conquêtes ne rapportent pas, mais les hommes ne manquent pas d'autres occasions de s'entretuer. Mais cette dialectique du procès et du drame, elle, on pourrait dire qu'elle est implicite dans Paix et guerre, mais elle n'est pas élaborée là, elle est élaborée ailleurs. Enfin, finalement, il me semble, on voit certaines prises de position philosophiques, par exemple sur l'État. Il cite le père Fessard et il dit que l'État a une réalité, une vocation que n'a pas la classe. C'est par rapport au marxisme, parce que c'est un mélange de nature et de culture, nation, etc. C'est important pour lui. On voit des choses permanentes qui apparaissent. Mais en tout cas, ce qui me semble, c'est que c'est avant tout, me semble-t-il, une excellente mise en forme où chaque chapitre, presque chaque paragraphe garde sa valeur, mais on ne voit pas la conception d'ensemble de la guerre. Il faut la chercher à travers sa philosophie telle que j'y ai fait allusion auparavant, c'est-à-dire, c'est aussi dans l'opium des intellectuels, c'est toujours de séparer les niveaux et de voir ensuite leur entrecroisement. Et c'est toujours, surtout, entre une tentation du quotidien, du particulier, de l'historicisme. Il n'a pas une philosophie de l'histoire globale, mais il a une philosophie de l'historicité et une recherche d'un universel que l'on n'arrive jamais à atteindre. Mais cette recherche d'un universel qu'on n'arrive jamais à atteindre, est-ce que c'est une mauvaise définition de l'activité philosophique ? Je vous remercie.
Je donne la parole à Monsieur Jean-Claude Casanova.
Madame la Présidente, mes chers confrères, mesdames, messieurs, je dois vous exprimer le point de vue de l'économiste. Et ce n'est pas le livre de Raymond Aron qui s'approche le plus de l'économie. Raymond Aron était philosophe, sociologue, historien, politiste, mais il maîtrisait parfaitement les connaissances économiques dès l'avant-guerre, par sa perpétuelle confrontation avec Marx, par la lecture jeune de Keynes et par le maniement régulier des instruments d'information et de réflexion sur l'actualité économique. Donc il connaît l'évolution économique et il la comprend comme un économiste. Mais la première chose que je dirais à propos de ce livre, c'est que c'est un livre écrit. Il découle de deux cours à la Sorbonne que Pierre Hersner et moi avons suivis, en 58-59 et 59-60, le livre paraît en 1962, et en 1984, il y a une nouvelle édition qui comprend une préface originale, c'est-à-dire une tentative de Raymond Aron de réfléchir sur son propre livre. Mais la première chose que je dois dire, c'est que c'est un livre conçu avant 1962, dans un monde économique qui est fondamentalement différent. Et je voudrais tracer les principales lignes du monde d'avant 1962 comparées au monde actuel. Avant 1962, nous sommes dans une phase de libéralisation progressive des échanges, de retour progressif à la convertibilité des monnaies, et avec un système de change, un système monétaire international qui n'est ni fixe, bien que le système fixe soit réclamé en France par Jacques Rueff, par exemple, ni parfaitement organisé, comme cela est réclamé par exemple par Robert Triffin. C'est en fait un système monétaire ancré sur les États-Unis et sur la parité entre le dollar et l'or, les autres monnaies s'adaptant par des systèmes de dévaluation ou de réévaluation plus ou moins organisés par le Fonds monétaire international. C'est une période dans laquelle les États-Unis sont en déficit de leur balance des paiements, mais avec un déficit assez spécifique, parce que nous allons retrouver ce problème aujourd'hui, ce problème préoccupait beaucoup Raymond Aron. Le déficit américain antérieur à 1962 est un déficit dans lequel les États-Unis exportent des capitaux, des investissements, ils investissent dans le monde entier, et ils exportent leur politique militaire, c'est-à-dire l'OTAN en Europe, en Asie également. Et en contrepartie, les autres pays fournissent aux États-Unis des liquidités que les États-Unis organisent. Mais les États-Unis sont en déficit de leur balance des paiements, mais ils ont une position créditrice à l'égard de l'ensemble du monde. Enfin, c'est une époque dans laquelle l'Europe est en création, le traité de Rome est appliqué, par le général de Gaulle revenant au pouvoir, sur les conseils de Georges Pompidou et de Michel Debré. Et donc, nous sommes avec une ambiguïté de la construction européenne qui est vue pour partie comme un élément de la libéralisation progressive des échanges et pour partie comme un système permettant de protéger, notamment en matière agricole, l'Europe. Mais la caractéristique essentielle du point de vue économique du monde d'avant 1962 est son hétérogénéité. C'est-à-dire que le monde est divisé en zones autarciques, par exemple la Chine, la Russie, l'Union soviétique, la zone communiste en Europe. Le monde est divisé entre régimes économiques fondamentalement distincts, le régime capitaliste d'un côté et des régimes dits de planification centralisée de l'autre. Et enfin, le monde est caractérisé par l'idée qu'une partie du monde a d'extrêmes difficultés de croissance, puisque a eu un grand succès la formule d'Alfred Sauvy disant que le monde est divisé en trois et qu'il y a d'un côté le monde capitaliste, le monde communiste et le tiers-monde, ensemble hétérogène qui comprend l'Amérique latine, l'Afrique et la majeure partie de l'Asie. Donc c'est cette hétérogénéité qui est déterminante. Or, si vous regardez le monde d'aujourd'hui, il est totalement modifié par rapport à cette situation. Et j'en donnerai simplement une illustration chiffrée. C'est que entre 1950 et 1973, le monde occidental est passé, les produits intérieurs bruts du monde occidental sont passés de 3,1 milliards de dollars à 9,398 milliards de dollars, donc ont été multipliés par 3. Dans la même période, le reste du monde, c'est-à-dire tout le tiers-monde, toute la zone communiste, est passé de 2144 milliards à 6625 milliards, donc ont été également multipliés par 3. Mais vous notez que l'ensemble occidental, c'est-à-dire Europe occidentale, États-Unis, Japon et autres pays occidentaux comme l'Australie, sont à peu près l'équivalent, sont 150% au-dessus, si vous voulez, de le rapport est de 3 à 2 entre le monde occidental et le reste du monde. Or, aujourd'hui, la situation est totalement inversée. En 2030, le monde occidental sera à 35 120 milliards de dollars de PIB et le reste du monde, dans l'ancienne définition, sera à 61 000 milliards de dollars. Autrement dit, l'avantage que le monde occidental avait sur le reste du monde est inversé dans la période dans laquelle nous entrons. Et cette inversion tient essentiellement à la Chine et à l'Inde. C'est-à-dire, la Chine représentera 22 milliards de ces 61 milliards et l'Inde 10 milliards, le reste de l'Asie 14 milliards. C'est donc l'ensemble asiatique, si vous voulez, qui sera plus important que l'ensemble occidental, nettement plus important que l'ensemble occidental. Donc il y a une inversion complète du monde dont il faut chercher les différents éléments pour comprendre ce monde d'aujourd'hui par rapport au monde que décrit Raymond Aron. Ces événements, ce qui s'est produit, ce sont la série d'événements suivants. La fin des autarcies chinoises, russes, liées à la fin du capitalisme. Donc d'une certaine façon, la généralisation du capitalisme. La fin de ce qu'on a appelé, ce qui a été un mythe consistant en Amérique latine, les croissances autocentrées, c'est-à-dire les croissances fondées uniquement sur la production et la consommation intérieure. L'ensemble du monde s'est au fond rallié à l'invention asiatique des croissances fondées sur l'exportation. La mondialisation, qui est devenue un thème constant et qui est, disons, le triomphe du libre-échange, l'échec du protectionnisme, le protectionnisme devient une velléité, une possibilité, mais n'intervient pas dans l'évolution que nous avons connue. En gros, si vous voulez, dans les 50 ans qui se sont écoulés depuis le livre de Raymond Aron, la croissance du commerce international a été supérieure à la croissance du produit mondial. Autrement dit, le degré d'interdépendance entre les nations s'est considérablement augmenté. Et il s'est continuellement augmenté au long de ces 50 années. Alors il est apparu un phénomène qui aurait certainement attiré l'attention d'Aron et qui l'aurait fait beaucoup réfléchir, c'est-à-dire que l'interdépendance financière est devenue, à certains égards, plus importante que l'interdépendance commerciale. Aujourd'hui, les États-Unis sont dans une position nette débitrice, si on fait un bilan des États-Unis, de environ 4 800 milliards de dollars. Et curieusement, d'ailleurs, cette position débitrice se retrouve également dans la totalité du monde anglo-saxon. C'est-à-dire que l'Angleterre, le Royaume-Uni est dans la même situation L'Australie est dans la même situation. Donc les pays anglophones sont dans cette situation, ce qui vous explique cette attitude allemande qui rappelle d'une certaine façon la fin du XIXe siècle. L'Allemagne et le Japon et la Chine sont les grandes puissances créancières et exportatrices, alors que le monde anglo-saxon sont les grandes puissances importatrices et financières, c'est-à-dire qu'elles placent les créances des pays qui exportent des biens. Et de certaines façons, apparaît dans le monde une forme d'hétérogénéité entre la puissance financière et la puissance industrielle. Enfin, si je termine sur cette période d'après 62, la zone euro, auquel je viens de faire allusion à travers l'Allemagne, est une zone équilibrée grâce à son hétérogénéité, c'est-à-dire grâce à la puissance exportatrice de l'Allemagne qui compense les dettes des pays comme l'Italie, l'Espagne ou la France, qui sont, eux, dans une position fondamentalement défaitrice. Mais la zone euro est donc équilibrée, elle n'est pas fondamentalement créancière et elle n'est pas débitrice, mais elle est profondément hétérogène et donc la question de sa survie de ce fait se pose. Voilà le tableau du monde d'aujourd'hui, si vous voulez, et ce tableau, évidemment, nous ne le retrouvons pas dans Paix et guerre. Qu'est-ce que nous avons dans Paix et guerre? Nous avons dans Paix et guerre un chapitre qui concerne l'économie. C'est, je crois, le chapitre, je suis sûr, c'est le chapitre 9 de la deuxième partie. Vous vous souvenez que la deuxième partie s'intitule Sociologie, et que dans cette partie, Raymond Aron cherche les déterminants et les régularités qui peuvent permettre de comprendre le système international, bien qu'il n'utilise pas vraiment l'expression système international, qui permettent de comprendre les relations internationales et les possibilités de guerre et de paix. Dans ce chapitre, Raymond Aron s'appuie sur une classification des visions de la relation entre l'économie et la politique internationale qui classe en 4 catégories le mercantilisme, le libéralisme, l'économie nationale et le socialisme. Le mercantilisme, c'est la subordination de l'économie à la politique. Le libéralisme, c'est le libre-échange et il est nécessairement pacificateur. Et l'économie nationale, c'est le libéralisme par étapes, disons c'est la position allemande de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire c'est un protectionnisme éducateur amenant progressivement au libéralisme. Le socialisme, c'est l'autarcie sous une forme protectionniste dans la période de latence du capitalisme, et ensuite le socialisme devient le libéralisme par le libre-échange entre pays socialistes. Donc si on accepte les quatre catégories que retient Raymond Aron, le mercantilisme, l'économie est un moyen de la guerre. Dans le libéralisme, l'économie est pacificatrice du système international. Dans l'économie nationale ou dans le socialisme, on parvient à la pacification libérale, dans le premier cas par des étapes éducatrices, dans le deuxième cas par le passage du capitalisme au socialisme. Mais dans cette vision, si vous voulez, elle va lui servir premièrement à réfuter historiquement les interprétations léninistes des guerres ou de l'impérialisme et à faire apparaître que les régularités économiques ne permettent pas l'interprétation des causes des guerres ni l'interprétation de l'impérialisme. Et elle va lui servir aussi à expliquer sa vision de l'économie mondiale comme non déterminante des régularités politiques internationales et des possibilités de guerre et de paix. De ce point de vue, si vous voulez, on voit bien que tout le raisonnement d'Aron sur la relation avec l'économie est fondé sur la vision qu'il a de l'hétérogénéité fondamentale du monde de l'époque, qui est une hétérogénéité politique, et donc, si vous voulez, la régularité économique ne lui fournit pas un moyen d'interprétation. Réfléchissons maintenant à ce que pourraient être les regrets d'Aron qu'il a esquissé dans la tentative de réflexion sur paix et guerre entre les nations qu'avec Pierre Asner nous avons reproduit en tête de l'édition de 84 de paix et guerre entre les nations. Il répondait d'ailleurs, je crois, en partie à des remarques que lui faisait Pierre Asner sur le caractère trop limité de l'interprétation strictement interétatique des relations internationales. Alors, dans cette préface, il dit « Je n'ai guère employé le concept de système économique ». Et un peu plus loin, il dit on peut considérer le monde de trois façons. On peut le considérer sous l'angle international, sous l'angle transnational et sous l'angle supranational. Sous l'angle international, on est renvoyé à l'analyse classique qu'il fait des rapports interétatiques. Sous l'angle transnational, on est renvoyé à l'économie et à la culture, principalement à l'économie, aux moyens de communication, c'est-à-dire que ce qui compte dans le système mondial, c'est les relations entre les sociétés, l'interpénétration des sociétés, dans ce cadre, à ce niveau, et pas les relations interétatiques. Le supranational étant d'un ordre différent et pouvant commander les deux ordres précédents, puisque le supranational, c'est l'apparition d'une autorité étatique supranationale, c'est-à-dire d'un État universel, régulant l'économie, régulant la culture et les communications, et régulant d'une certaine façon les relations interétatiques. Pierre Asner a mentionné la critique d'Aron à l'égard du droit international, mais regardons simplement ce qui concerne la société, le système économique. Alors, dans cette préface, Aron insiste sur deux points. Le premier, il réfléchit sur la notion centre et périphérie, c'est-à-dire dans cette société transnationale et à l'intérieur de cette société transnationale, dans le système économique mondial, y a-t-il un centre et une périphérie? Pourquoi utilise-t-il cette opposition? Parce que c'est dans les années 70 le thème central d'une critique post-marxiste du système international. C'est-à-dire qu'il y aurait un centre et une périphérie, le centre bénéficiant de la périphérie et d'une certaine façon profitant de la périphérie ou appauvrissant la périphérie. Et si Aron raisonnait aujourd'hui, il fait la critique de cette analyse, centre-périphérie, mais aujourd'hui ce type d'analyse a quasiment disparu. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, les exportateurs de ressources naturelles ont pris leur position naturelle, si j'ose dire, qui est une position de rentier, au sens économique strict du terme. C'est-à-dire que profitant d'une rigidité de l'offre, ils obtiennent des prix plus élevés que lorsqu'il y a élasticité de l'offre. Et la rigidité de l'offre offre des rentes qui sont différentes des profits. Et aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, les producteurs de ressources naturelles sont des rentiers. Il suffit de regarder ce que représente la rente pétrolière et les créances qu'elles produisent en Russie et surtout au Moyen-Orient et ailleurs éventuellement. Et l'idée que le centre exploite la périphérie par des faibles prix des matières premières est une idée totalement disparue. Et deuxièmement, cette idée centre-périphérie est écartée aujourd'hui tout simplement parce que le taux de croissance des émergents est devenu plus important que le taux de croissance du centre. Autrement dit, le taux de croissance des émergents étant pratiquement le double du taux de croissance du centre, il est difficile d'interpréter l'exploitation de la périphérie par le centre. Donc le néo-léninisme qui était implicite dans l'opposition centre et périphérie auquel fait allusion Aron disparaît. Que reste-t-il, deuxième point, que reste-t-il de l'hétérogénéité économique aujourd'hui? Si on considère le monde d'aujourd'hui, l'hétérogénéité des régimes économiques a disparu. L'hétérogénéité des taux de croissance s'est inversée, comme je viens de le dire. Il reste peut-être une hétérogénéité des capacités scientifiques et techniques. Ce n'est pas démontré, et il n'est pas démontré qu'elle se poursuivra, qu'elle se maintiendra, mais il reste une particularité du monde moderne, c'est que les États-Unis représentent en gros plus de la moitié de la science moderne, quelle que soit la façon dont on mesure la science moderne, par le nombre des brevets, le nombre des universités classées, le nombre des prix Nobel, le nombre des articles cités. Il y a une immense littérature là-dessus, et quand on synthétise cette littérature, la réalité est très simple, en gros, un peu plus de la moitié de la science mondiale est localisée aux États-Unis. Et de ce fait, il y a un centre scientifique du monde et une périphérie scientifique du monde, puisque les autres 50% sont divisés dans la totalité du reste du monde. Mais nous ne savons rien de ce que sont les capacités d'évolution scientifique, notamment du monde asiatique. Autre problème, qu'en est-il de ce système économique, c'est-à-dire est-ce que cette société transnationale économique aspire au supranational et échappe à l'interétatique? Alors, échappe à l'interétatique, c'est aujourd'hui vraisemblable. C'est-à-dire qu'en gros, les velléités protectionnistes ne font apparaître, ne se transforment nulle part en réalité protectionniste. Elles sont présentes, peut-être pour des raisons de politique intérieure s'amplifieront-elles, mais on ne voit pas apparaître de tendance protectionniste dans le monde tel qu'il est. Donc de ce point de vue-là, le transnational économique domine l'interétatique. Le transnational économique aspire d'une certaine façon, par compensation, à un supranational. Mais pour l'instant, ce supranational n'existe faiblement qu'à l'intérieur de l'OMC, puisque en gros, le passage du GATT à l'OMC est le passage d'un système d'accords intergouvernementaux à un système quasi-judiciaire avec possibilité de contentieux et de règlement de ces contentieux. Mais en matière de convertibilité, en matière de balance des paiements ou de balance commerciale, en matière d'environnement ou en matière de droit de propriété, domaines pour lesquels on pourrait aspirer à des réglementations supranationales, il n'existe pas pour l'instant d'évolution décisive. Peut-on dire que le système économique joue un rôle déterminant en raison de cette obsession de la mondialisation qui caractérise le monde actuel? Je pense que Aron aurait été attentif à la comparaison entre la phase de mondialisation actuelle et la phase de mondialisation que le monde a connue entre 1890 et 1914. Il y a incontestablement des éléments communs puisque nous nous sommes trouvés à cette époque, à la fin du 19e siècle, dans une période où c'était l'ensemble du système mondial qui courait vers la croissance économique et on sait comment les choses se sont achevées sans qu'il y ait de relation entre le phénomène de mondialisation et de libre-échange précédent 1914 et la guerre elle-même. Mais aujourd'hui, peut-on penser que le phénomène est plus particulier, plus étrange? Quand on regarde la situation d'avant 1914, on est impressionné par le fait que, en gros, il y a, en même temps qu'il y a internationalisation et mondialisation, sans beaucoup d'interdépendance néanmoins, il y a en gros une montée de l'Allemagne et des États-Unis qui dépasse en produits par tête la Grande-Bretagne à la fin du 19e siècle. La Grande-Bretagne avait dépassé les Pays-Bas légèrement à la fin du 18e siècle et l'Allemagne et les États-Unis dépassent en produits par tête la Grande-Bretagne à la fin du 19e siècle. Il y a un grand Américain, Adams, qui en tire des conclusions politiques. Et il y a un article très célèbre de lui, qui est, je crois, de 1902 ou 1904, dans lequel il dit « Désormais, la balance du monde change, puisque l'Angleterre n'aura plus la capacité économique de supporter, de gérer le système mondial du libre-échange. Et donc, ça sera la tâche des États-Unis de supporter le système mondial du libre-échange. Et donc, si vous voulez, il y a dans cette vision qui précède 1914 l'idée que la mondialisation doit s'accompagner d'une puissance politique régulant le système international, qui est l'Angleterre du 19e siècle et qui sera, pour Adams, les États-Unis du 20e siècle. Donc la question se pose aujourd'hui, quand on regarde le monde de la même façon, de savoir si les États-Unis étant au fond le grand régulateur du système économique mondial, nous ne sommes pas entrés dans une phase de déclin des États-Unis. Pourquoi parle-t-on si facilement de déclin des États-Unis aujourd'hui? C'est en raison de leur déficit budgétaire, puisque les finances publiques américaines sont exactement dans la même situation en termes relatifs que la Grèce. Ils doivent avoir un déficit des finances publiques de 7 à 8%. Simplement, c'est un déficit que le monde entier finance sans aucune difficulté. Les États-Unis sont devenus des débiteurs nets du reste du monde, c'est-à-dire que, étrangement, la puissance la plus riche du monde, la première puissance scientifique du monde, est débitrice nette du monde, c'est-à-dire que elle importe des produits industriels fabriqués par d'autres à des prix plus bas, ce qui élève le revenu par tête de ses habitants, et elle place les créances des gens qui exportent vers elle. Et de ce fait, si vous voulez, les États-Unis, par leur capacité financière à gérer les créances des autres et leur capacité à utiliser les biens produits par les Asiatiques pour les consommer, sont dans une situation un peu étrange de fragilité économique, de fragilité ou de santé économique, je ne sais pas, mais certainement de fragilité économique, qui aurait certainement beaucoup impressionné Aron. Aurait-il conclu que de cette situation, on passait à la faiblesse politique? Je ne crois pas. Je crois que fondamentalement, comme l'a dit Pierre Asner tout à l'heure, il mettait en place les différents éléments de la réflexion en sachant que ce seraient les événements et le cours historique qui seraient déterminants. Donc il dirait sans doute que les États-Unis restent la première puissance scientifique du monde, la première puissance militaire du monde, qu'ils utilisent leur déficit pour augmenter le revenu par tête de leurs habitants, qu'ils le gèrent financièrement et qu'il se produira un certain nombre d'évolutions dans les rapports avec la Chine qui tiendront à l'évolution du régime politique chinois, dans les rapports entre au Moyen-Orient, des difficultés qui tiendront compte des difficultés du Moyen-Orient, mais pour lesquelles, vraisemblablement, le système économique tel qu'il est et son évolution telle qu'il est n'offre pas de détermination. Donc je pense que la conclusion qu'il y a dans Paix et Guerre et qui était à propos des événements précédents 1962 et de l'hétérogénéité du monde reste valable pour les événements d'aujourd'hui. On est renvoyé, lorsqu'on réfléchit sur l'économie et sur l'évolution économique du monde, pour savoir ce qui se passera, on est renvoyé à la politique et à l'histoire, au drame, comme disait tout à l'heure Pierre Asner en citant le célèbre article opposant le procès et le drame, et nous savons que pour ce drame, l'économie n'offre toujours pas de clé.
Ces entretiens consacrés à Raymond Aron sont proposés en deux parties. La seconde partie, elle, vous expose les points de vue des académiciens Thierry de Montbrial et Jean-David Lévite.